Allô? Allô?
Mais,
ils ne répondent pas?
Bonjour à tous et meilleurs vœux à vous tous qui nous avez accompagnés durant toute l'année 2022, à vous et à toute votre famille. L'année 2022 va presque toucher à sa fin. Une nouvelle année s'est pointée à l'horizon. Plusieurs événements ont marqué la vie socio-économique du pays. Lesquels ont attiré notamment votre attention et comment les commentez-vous? Et quels sont vos souhaits pour l'année 2023 sur le plan socio-économique? Vous pouvez participer à cette émission en composant les 081 890 63 30 ou encore les 081 890 49 69. Vous avez également la possibilité d'interagir sur www.radiocapi.net. Priscille Kabouya assure la réalisation de cette émission mise en onde par Billy, voilà. Voilà Billy, merci d'être avec nous et c'est très gentil. Ces programmes sont coordonnés, présentés par J.R. Lungembo, Luabung, Angie. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Voilà, nous avons le plaisir d'accueillir d'abord Simon Tsiloulou qui va ouvrir les débats. Simon, vous êtes avec nous, vous êtes très intéressé par ces sujets. Bonjour Simon.
Oui, bonjour à vous et bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent à travers le monde entier. Merci.
Alors, quels sont les événements qui ont retenu votre attention durant toute l'année 2022 sur le plan socio-économique?
Oui, d'abord nous commençons par le terme final, le budget qui a été voté à 14 milliards. Et c'est une première pour notre pays depuis l'accession au pouvoir de manière démocratique, parce que rappelons-nous que l'époque de Joseph Kabila au pouvoir, c'était 800 millions de dollars. Et de 810 millions de dollars à 14 milliards, de 800 millions et à 14 milliards, c'est quand même un travail et un cheminement positif qui a été fait. Donc c'est un point positif. Alors, mais ce qui est vrai, c'est chaque année que le budget est virtuellement augmenté. Mais sur le plan réalité du terrain, comme si les réalisations ne suivaient pas le montant budgétairement prononcé. C'est là où il y a le problème. On se demande si c'est le problème de mobilisation ou le problème de manque de bonne volonté ou sinon le problème de la division ou sinon de la scission. Les uns prennent les gros et les autres prennent les tout petits. C'est ce qu'on a toujours dénoncé. Et d'ailleurs, même le député récemment, celui qu'on a démis, Marc Kabound, a dit ça. Il faut qu'on puisse revoir le train de vie des institutions pour que le budget soit équitablement réparti. Parce que c'est parmi les grands problèmes de la nation, les revenus nationaux ne sont pas répartis avec équité. Maintenant, pour le budget 2023 ici, qui va à 14 milliards, il va falloir que la population, les citoyens lambda, sentent qu'il a quitté de 800 millions à 14 milliards dans son petit coin où il évolue. C'est là où il y a des problèmes. Il va falloir que la présidence de la République, qui tient à voir la population se réjouir comme les bois ou des grands hommes, et il va falloir maintenant qu'ils suivent ça et que nous nous sentions tous et que nous soyons joyeux.
Voilà. Donc, si je comprends bien, Simon, vous avez salué l'augmentation du budget national autour de 14 milliards, et vous souhaiterez que l'année prochaine, qu'on puisse réellement réduire les trains de vie des institutions pour que finalement on puisse tenir compte de la répartition équitable des revenus afin de permettre à la population de sentir cela dans les paniers de la ménagère. Nous vous gardons en ligne. Simon, nous vous gardons en ligne parce qu'il y a beaucoup d'événements qui ont marqué la vie socio-économique en 2022. Vous, ce qui a beaucoup plus retenu votre attention, c'est la révision à la hausse de ces budgets. Mais on va prendre Moïse Soumaïli. Vous êtes avec nous, Moïse?
Oui, je suis avec vous. Bonjour, messieurs les journalistes.
Alors, quels sont les événements qui ont marqué votre attention?
Merci beaucoup pour la parole. En premier lieu, le premier événement qui a beaucoup plus attiré mon attention, là j'aborde sur le plan économique tel que le prédécesseur vient de dire, c'est l'augmentation du budget autour de 10 milliards de dollars. C'est
14 milliards.
2022. Je ne parle pas de 2023, je parle du budget 2022. Voilà. Donc, c'est 10 milliards de dollars. Mais la problématique demeure, messieurs les journalistes, la vie sociale. Malgré l'augmentation du budget, mais les Congolais ne sentent pas l'impact de cette augmentation du budget.
Oui, parce que cette fois-ci, le budget 2021-2022, c'est vrai, c'est autour de 10 milliards. Vous avez, selon vous, pas remarqué un changement dans le panier de la ménagère. Et si je comprends bien, vous allez dans le sens, comme votre prédécesseur, que 2023, le budget qui est revu à la hausse à hauteur de 14 milliards, qu'on sente ça dans le panier de la ménagère.
Effectivement, c'est ce que je voulais atterrir sur ça. Alors, sur le plan économique, puisque moi je suis à l'est du pays, ici à Goma, en tout cas l'année 2022, la population du Nord Kivu a beaucoup souffert et continue toujours à souffrir. Le président de la République a décrété l'état de siège, mais jusque-là, en tout cas, on ne ressent pas un changement sur le plan de la sécurité des entités où la population est en train de vivre. C'est pourquoi le président de la République, pour l'année 2023, il doit en tout cas faire de son mieux, revoir la manière de gérer la question de la sécurité. Puisqu'on est en train de voir seulement la prolongation de l'état de siège, on est en train de prolonger, mais on ne sent pas aussi les changements sur terrain.
Donc vous voulez dire quoi concrètement? Sur le plan économique, l'état de siège n'a pas apporté grand-chose.
En tout cas, ça n'a pas apporté grand-chose. Ça n'a pas apporté, puisqu'aujourd'hui, la population du Nord qui est en train de souffrir avec la question du M23. Vous savez que, monsieur le journaliste, aujourd'hui, ici à Goma...
Mais souffre comment? Avec les questions des taxes? Par rapport à quoi? Par rapport à quelle question?
Non, non. La population, surtout la population de la ville de Goma, est asphyxiée sur le plan économique. La population ne sait plus comment s'en sortir pour acheter, par exemple, un sac de braise. Le sac de braise qui coûtait 20 dollars, 25 dollars, mais aujourd'hui ça coûte 70 dollars.
Ah bon?
70 dollars. Un sac de riz qui coûtait 15 dollars, 16 dollars, mais aujourd'hui c'est autour de 30, 35 dollars. Vous voyez que la population est asphyxiée sur le plan économique. Tout ça, le président de la République doit tenir compte dans l'année 2023 pour voir comment mettre fin à cette question de l'insécurité à l'est du pays. Mais aussi, je vais terminer par rapport à l'organisation des élections que nous souhaitons tous pour l'année 2023.
Donc vous,
afin que nous
donc,
puissions changer.
Donc vous avez donné l'exemple de sac de braise, qui coûtait en son temps 20 à 25 dollars. Aujourd'hui, on est à 70 dollars. C'est une variation gravement à la hausse et ça vous a inquiété tout au long de l'année. Et tout ça est lié à l'insécurité à Bulagana, à Rutshuru. Et donc, l'impact s'est fait sentir au niveau des Goma.
Effectivement.
Voilà. Alors, à part le budget qui a été revu à la hausse, quels autres événements ça vous a marqué? Notre adhésion, par exemple, à la communauté des États d'Afrique de l'Est?
Bon, l'adhésion de la RDC à la communauté des États d'Afrique, bon, jusque-là, moi, personnellement, je suis encore dubitatif. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore senti l'impact de cette adhésion par rapport à la question toujours de l'insécurité et sur le plan économique.
Voilà. Merci beaucoup, Moïse, d'avoir accepté d'intervenir. Vous avez révélé que l'année 2022 a été peu reluisante, en tout cas pour la population du Nord Kivu, avec la situation de l'insécurité, causant ainsi de l'asphyxie économique au niveau de Goma. Alors, merci beaucoup. Je crois que la situation à Matadi, c'est autre chose que vient de proposer Moïse. Simon.
Oui, évidemment, c'est un peu différent parce que Matadi, nous ne vivons pas directement le fait que les gens de l'Est se sentent, mais indirectement, nous appartenons à un même budget, à un même État. Donc, lorsque l'Est est affecté, même l'Ouest va sentir ça sur le plan financier. Mais ce qui est vrai, je parle surtout de l'allègement pour les investisseurs. C'est de chaque année, même les époques antérieures, on parlait surtout de notre système fiscal qui ne permettait pas aux investisseurs de pouvoir facilement
venir. Mais oui, mais cette année, le gouvernement a allégé un peu certains importateurs en supprimant certaines taxes. Je crois que c'est parmi les événements à mettre de l'actif du gouvernement, de l'action gouvernementale.
Oui, c'est parmi tel que vous le dites, c'est parmi l'actif. Nous nous sommes contents. Mais si l'impact sur le terrain, ça ne suit pas jusqu'ici. Le taux de chômage continue à être à se prolonger. Nous continuons à former dans des écoles et dans des universités tous ces gens. En fait, le problème, c'est qu'il va falloir, lorsqu'il y a allègement dans ce genre de cas, et que sur le terrain, qu'on sente quand même une amélioration par rapport à la proposition faite. Puisque si l'État hypothèque les taxes, c'est-à-dire c'est quand même ça une imputation budgétaire, ces taxes-là. Alors il va falloir, lorsque l'État hypothèque cet impact, c'est quoi là, il va falloir que la population aussi se retrouve. La grogne sociale, par exemple, a été le moteur de ce 2022. Parce que, n'oubliez pas, nous, enseignants, nous sommes partis en grève. Et d'ailleurs, nous préparons encore, je crois même, la reprise des cours pendant ces... Après Noël, ici, risque d'avoir des problèmes si l'État ne fait pas ce qu'il a promis.
Oui, mais il y a des promesses qui vous ont été faites pour le trimestre 3 de l'année 2023. Donc, je crois que vous n'avez qu'à prendre votre mal en patience.
Non, là, vous allez trop loin. Il y a des promesses qui doivent être faites au dernier trimestre de 2022. Mmh. Le trimestre ici, 2022, donc octobre, novembre, décembre. Mmh. Il y a des promesses qui sont là. Des 20 000 francs de réajustement de la gratuité. Les 30% des deuxièmes paliers.
Voilà. Alors, Simon, on va vous libérer d'un moment à l'autre. Gardez la ligne, le temps de retrouver Sylvain de Bougna à Guénaudo, qui est notre invité pour ce sujet. 081 890 63 30, ou encore les 081 890 49 69, pour votre intervention directe.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42 502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42 502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Merci encore de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans cette émission qui fait l'évaluation de la situation socio-économique de l'année 2022 et qu'est-ce que vous souhaitez avoir, disons que l'année 2023. Simon Tiloulou l'a dit, il faut un train de vie des institutions qui doit normalement être revu à la baisse, la répartition équitable des revenus pour permettre à ce que la population sente dans leur panier de la ménagère ce que l'État aurait produit. Et aussi la question de plusieurs événements qui ont marqué cette année. Qu'est-ce qui vous a le plus attiré votre attention? Alors Sylvain Aguenot, nous vous recevons en tant qu'invité. Vous êtes un acteur, un analyste économique. Et bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Merci une fois de plus. Je voulais saluer l'autre qui me suit l'émission et leur présenter.
Alors là, vous sortez déjà à très coupé, si vous pouvez changer votre position pour nous permettre d'avoir une très bonne communication, sinon bon, on aura des difficultés pour la suite. Vous avez la parole, Simon.
Là, vous m'écoutez.
Allez-y.
Oui, j'ai présenté mes vœux les meilleurs pour mes compatriotes qui me suivent à travers cette émission, même à vous-même, toute l'équipe de Radio Okapi. J'ai suivi M. Simon, que j'ai salué, mais aussi M. Moïse. Ils reviennent sur deux ou trois éléments. La première chose, c'est que le budget a connu un accroissement depuis 2022. Mais il faut retenir que dans cet accroissement, il y a des interrogations. Lorsque vous analysez d'abord le budget 2022, plus de 10 milliards de dollars, mais vous regardez sa répartition, vous vous rendez compte que pour seulement les dépenses des institutions politiques de ces pays, nous avons plus de 40%. Et ce qui veut dire que les 60% sont à déverser dans d'autres dépenses de l'État. Mais, à la réalité, il y a eu un problème de gestion de ces budgets-là. Comme M. Simon l'a dit, et vous avez même parlé de la révision du train de vie institutionnel. Mais pourquoi le chiffre a augmenté, mais la condition sociale et économique des populations n'augmente pas? Ici, je vais parler des salaires que les Congolais ont eu à recevoir, puisque c'est à ce niveau-là qu'on voit effectivement si les choses ont changé. En économie, les chiffres n'ont pas de sens lorsque les besoins socio-économiques demeurent criants. Je veux dire, si la population n'a pas accès aux soins de santé, si la population n'a pas accès à l'éducation de qualité, si la population n'a pas accès à l'énergie, eh bien, même aux routes, des dessertes agricoles et même d'autres, il faut dire que les chiffres deviennent chimériques. La situation que nous traversons dans ces pays économiquement en 2022. Alors, quand vous prenez par exemple ce que Moïse a soulevé, en ce qui concerne l'impact de l'insécurité à l'est du pays, si la vie sociale et économique des populations, il est tout à fait clair qu'on puisse relever le fait que la population est déstabilisée. Mais vous savez que dans toute économie, le producteur, c'est la population. Ici, je vais parler par exemple du domaine de l'agriculture, l'élevage, pêche et autres. Du moment où la population n'a pas accès à la sécurité, eh bien, il est possible que cette partie soit colorée en rouge. Ça veut dire qu'il n'y a pas de production. À ce niveau-là, l'épidémie de la population, l'épidémie de l'État, a un problème. Au niveau des opérateurs économiques, lorsqu'ils n'ont pas accès à la fluidité dans les opérations économiques, eh bien, les problèmes de taxes aussi, un problème sérieux, et là, les budgets...
Mais cette année, il y a eu quand même des mesures incitatives, des mesures pour permettre à ce que les importateurs soient, en tout cas, relativement relaxés un tout petit peu avec la suppression de certaines taxes.
Je vais arriver, puisque déjà mon compatriote Moïse, qui a intervenu, a relevé cette question-là de l'amélioration du régime fiscal. C'est vrai, puisqu'on ne peut pas continuer à faire des affaires dans un régime fiscal compliqué. L'État fait des efforts, effectivement, par rapport à ce domaine-là. Mais est-ce que sur le terrain, c'est ça la réalité? Je venais de vous dire, je prends seulement l'exemple, par exemple, de l'Est, je vais revenir vers l'Est par après.
Vous avez pratiquement sillonné l'Ituri, vous avez été et même à la Tchopo. Quelle est la situation sociale, la situation économique cette année 2021?
Lorsque nous recevons les populations dans leurs couches trop différentes, il faut dire sincèrement qu'il y a de lamentation. Je ne voudrais pas ainsi dire comment est-ce que les opérateurs économiques se sont menacés par une multitude de taxes, malgré les efforts qui se font au niveau national pour dire qu'il faut arrêter avec la tracasserie des opérateurs économiques et même des citoyens qui sont dans les affaires. Il faut reconnaître que si les plans pratiquent, la population continue à subir la multiplicité des taxes. Et d'ailleurs, des fois, on ne comprend pas pourquoi certaines taxes sont payées. Pourtant, il y a déjà cette mesure incitative à ce que les opérateurs économiques aient des allègements fiscaux. Mais il faut reconnaître quelque chose. C'est que nous sommes dans un gouvernement très mal agencé en ce qui concerne la fluidité des opérations économiques, puisque nous parlons de l'économie. Il faut que, au niveau des institutions politiques de l'État, il y ait des instructions par rapport à ceux qui sont censés être des taxateurs de l'État, ça veut dire les officiers de l'État, qui sont là devant les opérateurs économiques. Si ne vous en faites pas, en matière économique, les opérateurs économiques représentent les chapeaux, soit de la réussite, soit de l'échec, de la politique économique gouvernementale. Il est tout à fait normal que pour un régime responsable, pour un État qui veut être un État bon pour les citoyens, il faut qu'il y ait de l'ordre. Et c'est là où j'avais
dit. Alors Sylvain, parce qu'il y a des auditeurs, il y a plusieurs qui vont participer à ces débats. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'événements. Là, on s'est beaucoup plus attardé sur le budget et les mesures incitatives de l'État. Des mesures quand même qui vont dans le sens de pouvoir améliorer la fiscalité de notre pays, qu'on taxait parfois la douane qui est trop chère. Mais on ne tenait pas compte de certaines taxes qui viennent à s'alourdir ou alourdir la liste de la nomenclature des taxes dans notre pays et qui ne relève pas simplement de la DGDA ou encore d'autres structures. Alors, on va revenir à vous, Sylvain. Le temps d'écouter Simon qui va remplacer un mot. Et puis, Deo Gracias qui nous a rejoint à ce débat qui nous appelle depuis Katanga. Alors, Simon Siloulou, peut-être vous avez encore un autre mot à placer après avoir écouté
Le mot à placer, c'est que nous attendons beaucoup de ce gouvernement, surtout à l'année 2023, corriger ce qui a fait que la population ne sente pas les efforts sur terrain conjugués par le gouvernement. Et également pour éviter les grondes sociales. Il va falloir, lorsque le gouvernement met l'argent en jeu pour que l'employeur s'entende avec les syndicats, les résolutions prises, il faut que le gouvernement acte pour les solutionner, enfin que d'apaiser les gens. Mais lorsque vous envoyez un ministère d'aller négocier avec les syndicats, on trouve des solutions, on prend des engagements, le ministère arrive, présente, le gouvernement accepte, mais l'application, on ne fait pas. On traite de ces ministères de menteurs et de farceurs à cause du gouvernement qui n'a pas réussi à faire ce qu'il a accepté de faire. Donc 2023 ici, que ça soit vraiment l'année électorale, nous le disons, si vraiment nous voulons encore donner mandat à ceux qui veulent continuer, ils doivent changer leur façon d'agir, qu'ils inversent l'équation. Au lieu que les autorités ou sinon les dignitaires gagnent gros, il faut que maintenant les peuples, c'est une logique mathématique, lorsque les plus riches exploitent les pauvres, les riches s'enrichissent davantage et les pauvres s'appauvrissent. Qu'on inverse cette équation et ils verront la joie de la population s'exprimer à la
voilà,
fin de l'année 2023.
Voilà, merci beaucoup Simon Antiloulou d'avoir appelé des Matadi et d'avoir accepté d'évaluer avec nous la situation socio-économique 2022 et projeter l'année 2023. Alors je crois que nous avons en ligne Deo Gracias qui nous a rejoint également. Lui nous appelle depuis le Katanga, qui avait d'ailleurs souhaité intervenir dans cette émission par rapport à ces débats également. Alors Deo Gracias, je crois que vous êtes en ligne, Deo.
Merci JR. Bonjour à l'invité, bonjour également à tous les auditeurs de la radio Capi et MRV à tous.
Voilà, vous avez la parole. Quelle est votre réaction? Quels sont les événements qui ont attiré beaucoup plus votre attention? Est-ce que seulement le budget qui a été l'accroissement du budget, la suppression de certaines taxes, l'inauguration du port en eau profonde des bananes? Et également, il y a eu plusieurs grognes sociales pour les médecins et ainsi que les enseignants.
Eh bien, merci. Ce que moi je voudrais dire par rapport aux événements qui ont attiré mon intention par rapport à cette année 2022 qui va bientôt prendre fin. Certes, vous avez cité les événements et par rapport à moi, je voudrais ici citer les événements malheureux et les événements heureux qui ont concouru à cette année 2022. En ce qui concerne les événements malheureux, nous avons d'abord la perte accrue de nos compatriotes dans l'est du pays, parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et cette année, on a eu à constater encore plusieurs décès et plusieurs cas de morts dans l'est du pays. Et notre événement, c'est toujours la perte de notre monnaie, de la valeur, la perte de la valeur de notre monnaie, c'est-à-dire le franc congolais. Parce qu'on pensait qu'on peut quand même arranger ou soit évaluer bien dans le sens positif les taux d'échange, c'est qui ne change à rien parce que nous avons les mêmes taux et il y a toujours des augmentations du jour au jour. Et un autre événement, parce que vous avez parlé de ce qui concerne les événements socio-économiques. Nous voulons aussi dire que par rapport au social, nous avons constaté qu'il y avait les gens qui ont eu de l'emploi. C'est dans la société, les gens qui ont eu de l'emploi, c'est en ce sens que nous avons parlé de la nomination dans plusieurs secteurs, c'est-à-dire dans les entreprises publiques. Récemment, il y a eu une nomination dans la petite territoriale. Et en ce qui concerne aussi le recrutement des magistrats, et c'est dans le secteur de la justice, c'est aussi dans le social, parce qu'il y avait beaucoup de licenciés en droit
qui étaient sur la rue, quoi.
Oui, qui a eu à postuler, et bientôt là, ils seront nommés magistrats. Mais ce qu'il faut souligner à ce point, certes, il y a eu la nomination, il y a eu le recrutement, mais ce recrutement, surtout des magistrats, n'était pas dans la méritocratie. Pourquoi ? Parce que même aujourd'hui, les CCM, se trouve encore dans la
Alors, qu'est-ce que souhaitez-vous pour l'année 2023? C'est vrai que vous avez accepté, comme vos prédécesseurs, l'accroissement budgétaire. Et vous avez reconnu l'amélioration fiscale. Vous avez reconnu quelques actions gouvernementales dans le sens de pouvoir améliorer les sociales de la population en recrutant des nouveaux magistrats et aussi en allant dans le sens de pouvoir créer de l'emploi pour des jeunes. Et la loi sur l'entrepreneuriat, alors pour encourager les jeunes à aller vers ça. Voilà. Donc c'est pratiquement des actions que vous mettez dans l'actif du gouvernement.
Tout à fait. Pour l'année 2023 qui va bientôt commencer, oui. Là, nous nous focalisons sur le dernier discours du chef de l'État, donc le discours à la nation. Il a parlé, il a touché plusieurs axes, donc plusieurs piliers dans les secteurs économiques et sociaux. C'est seulement mettre en pratique ce qu'il a dit là pour que l'année 2023 puisse nous amener un bon vent. Et dans le cas contraire, que ça ne soit pas comme auparavant, parce qu'on a eu à entendre plusieurs discours qui ne sont pas réalistes. Mais cette fois-ci, si vraiment on tient compte de tout ce qui a été décortiqué dans son discours d'ici la fin de l'année, et on met cela en pratique, cela peut encourager aux Congolais à bénéficier d'une bonne condition en ce qui concerne l'économie et le social. Voilà un peu, c'est dans ce sens-là que nous voulions quand même que l'année 2023 puisse continuer dans ce sens-là.
Voilà, merci beaucoup, Deo Gracias d'avoir appelé de Katanga. On va prendre, je ne sais pas, qui d'autre, Peter peut-être, qui va nous rejoindre dans un moment à l'autre. Et là, je retiens que pour vous inquiétez sur la monnaie qui est en train de perdre quand même sa valeur. Je crois notre invité, l'économiste, pourrait nous éclairer là-dessus. Sylvain, est-ce que vous pouvez nous éclairer? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement en 2022? Comment comprendre cette indication, cet indicateur des baisses de la valeur, de la perte de la valeur de notre monnaie?
On ne produit pas assez, c'est d'autres pas. Lorsqu'il y a un problème,
voilà, il faut encore, nous vous demanderons de changer votre position, hein, Sylvain, parce que petit à petit, on est en train de vous perdre avec ces micro-coupures. Sylvain?
Oui.
Oui, on vous entend, on vous écoute très bien. Allez-y.
Voilà, je disais que j'ai salué mon compatriote de Gracia à sa partie du Katanga. Il a soulevé un élément important. Ça veut dire la dépréciation du taux monétaire. C'est tout à fait responsable par rapport à ce que nous sommes comme la RDC, si le pays économique. Qu'est-ce que nous avons comme production, à part les minéraux? 2022, c'est pratiquement l'ensemble de ces histoires-là. Et lorsque, au niveau du marché mondial, nos minéraux n'ont pas de grande valeur, il y a des chiffres, eh bien, ça frappe notre économie. Et vous savez, en matière de la régulation monétaire, il faut avoir aussi la puissance des réserves. Mmh. Et comme vous le savez, 2019, 2022, de 1800 francs congolais directement à 2020 francs. Donc, il y a ces problèmes-là des réserves bancaires qui nous posent problème, mais aussi les régulateurs, qui est la production locale. J'étais en train de réfléchir avec quelqu'un avant de commencer cette émission, un de mes étudiants, et on discute pourquoi la RDC ne produit pas. Pourtant, un pays riche en tout. Mais lorsque une économie est focalisée uniquement sur les minéraux, et que si le plan des productions agricoles, par exemple, vous êtes néant, le tourisme, l'économie touristique ne produit rien. Mm-hmm. Là, vous venez de soulever l'entrepreneuriat local, où il n'y a pratiquement pas d'investissement dedans, et donc l'économie est malade. Et lorsque l'économie est malade, la santé est manifestée par la dépréciation de la valeur monétaire. C'est tout à fait naturel. Et c'est là où je dis qu'en 2023, il va falloir que notre gouvernement fasse l'effort dans la production locale. Nous avons soulevé la question de l'adhésion de la RDC à l'EAC. Mais nous, on se pose des questions. Nous adhérons à des marchés.
Oui, mais pour renforcer le libre-échange.
Non, mais libre-échange, nous produisons quoi? Que nous allons échanger avec les nations. Monsieur Géry, une de votre responsable. Le premier levier économique d'un État, c'est sa production locale. Comme je l'ai dit, la RDC ne produit pas. Je vais vous prendre la zone Est. Est-ce que vous savez que la zone Est est nourrie par les pays de l'EAC, les pays des Ouganda, les Kenya, les Rwanda, tout ça. Donc ça veut dire que nous devons être débouchés. Et quand vous êtes un débouché, il faut avoir la capacité de gouvernance de sa monnaie avec la devise. Mais est-ce que notre banque centrale en a vraiment? Et donc, Deo a raison de penser qu'il y a eu un problème monétaire. Et nous avons le risque qu'en 2023, nous puissions déjà aller vers 2000, 2030, 1 dollar ou 2050. Et un jour, ça va évoluer jusqu'à 3000. Puisque si nous n'avons pas les leviers de la production dans ces pays, ça va connaître un problème. Bon, au niveau des Ouest, on peut encore comprendre la situation. Puisque nous avons au moins des entreprises. À 2022, messieurs Lungemo, je vais être vraiment clair et non pas académicien. La RDC a créé combien d'entreprises? À 2022, la RDC a créé combien d'entreprises? Puisque c'est à terme des entreprises qu'on mesure la puissance d'une économie. Lorsque vous regardez, par exemple, l'économie française, on va vous dire que dans son ministère de l'économie, la France a créé 200 ou 300 ou 1000 entreprises.
Mais donc, difficile pour nous d'avoir des statistiques parce que, bon, finalement, on ne sait pas, on navigue à vue. Si on continue comme ça en 2023, ça risque de... Et d'ailleurs, il y a la semaine passée, on avait fait une émission sur les ODD, l'objectif 2030, nous risquons de ne pas vraiment être au rendez-vous, en tout cas sur le plan social.
Mais j'étais en train de les chercher dans les sites du gouvernement congolais, les statistiques par rapport au nombre d'entreprises créées en 2022 et même 2021. Je ne sais pas tomber sur une seule statistique, et c'est très dangereux. Et c'est là où je vous dis, aujourd'hui, en 2023, dans les budgets de notre gouvernement, il faut qu'on nous dise clairement, on va créer combien d'entreprises. Nous avons des entreprises pavillons. Vous les savez, toutes les entreprises, nous en parlons toujours avec vous depuis 2013, avec Opirep et tout, jusqu'aujourd'hui,
tout
le processus est où? La Sukimo et toutes les autres entreprises qui sont d'ailleurs des canards.
Bon, il faut que je le dise, vous n'êtes pas tombé des nues, parce que depuis 2013 pratiquement, depuis même 2009, lorsque nous avons commencé cette émission Parole aux auditeurs, aujourd'hui, jour pour jour, ça fait plus de 10 ans, vous êtes toujours là, Sylvain, en tout cas merci beaucoup. Hein. Meilleurs vœux à vous, meilleurs vœux également à toute votre famille pour le travail que vous abattez sur des analyses très pertinentes sur le plan économique.
Merci.
Voilà, alors on va vous garder en ligne le temps de retrouver Peter et de rappeler à ceux qui viennent à peine de nous rejoindre que nous évaluons la situation socio-économique 2022 et qu'est-ce que nous devons projeter pour 2023. 081 890 63 30.
Allô? Allô? Allô?
C'est parce que Radio Capi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport
Je suis vraiment ravi par la pertinence de l'interview.
Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience.
Il n'a pas bien travaillé.
Le intouchable, dans ces pays, n'existe pas.
Suivez cette émission chaque jour de 13h à 14h, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Merci de encore de votre fidélité à Radio Capi et merci de nous rejoindre dans cette émission, la toute dernière de l'année 2022. Et nous profitons d'ailleurs de vous présenter nos vœux le meilleur à vous tous qui nous avez accompagnés tout au long de l'année 2022. Vous avez été très gentils, vous avez été aimables et vous avez été, disons, très pertinents dans vos analyses et réflexions autour des débats que nous vous avons proposés. Merci de l'intérêt que vous avez, en tout cas, accordé les uns et les autres à nos échanges. On poursuit cette émission avec vous, Peter Mabou. Je vous dis merci d'être également un des fidèles auditeurs des Radio Capi, fidèles de cette émission. Peter, bonjour et merveux.
Merci, merveux, monsieur JR. Merci à tous les auditeurs de la Radio Capi. Je salue mes amis et puis je vais refaire aussi merveux à travers notre antenne préférée.
Voilà, vous avez la parole. Quels sont les événements qui ont marqué votre attention, qui ont vraiment attiré votre attention sur le plan économique, socio-économique?
Parfaitement, monsieur JR. Ce qui a marqué mon attention par rapport sur le plan économique dans notre pays, je pense que les amis ont eu d'abord à les soulever, c'est d'abord le poids, la malnutrition liée à l'insuffisance alimentaire au Congo, alors que nous avons les espaces où la production locale n'est pas vraiment prise en charge par le gouvernement. Et de deux, M. JR, je pense que cette baisse de la production locale met en cause l'économie congolaise qui se justifie par une théorie que certains professeurs même des universités ont toujours soutenue pour dire que nous avons une économie extravertie. Alors que cette théorie devrait, au niveau même des universités, faire objet de paradigmes pour changer cette donne, de ne plus penser avoir une économie extravertie, mais plutôt une économie forte par rapport à nos capacités internes. Plus seulement, là, de ici, M. Juillet, Ce qui a beaucoup plus attiré mon attention par rapport au plan économique également, c'est la déchéance du ministre de l'économie. Donc, bien que son départ...
Ça, il faut le souligner parce que la même année 2022, le ministre de l'économie a été démis de ses fonctions parce qu'il y a eu cette confusion dans l'importation de vivres frais.
Parfaitement. Donc, son départ se justifie parce que sur le plan économique, ça n'a pas marché. Mais il est parti. Mais quelle est l'issue de son départ par rapport au point social, économie, le panier ménagère de la population congolaise, qui se justifie également par les taux d'échange qui est jusque-là en train de gringoler. Les taux, on ne sait pas, et l'autorité régulatrice des taux, qui est la Banque centrale, ne se donne pas le corps et âme justement pour maîtriser cet aspect des choses. Et également aussi le gouvernement qui devrait s'investir sur le respect des cadres macroéconomiques, messagers. Donc, quand on ne pense pas à respecter les cadres macroéconomiques, ça va toujours poser un problème, comme l'invité l'a souligné.
Oui, mais quand vous parlez des cadres macroéconomiques, le climat des affaires, on sait qu'il y a eu des mesures incitatives dans le sens de pouvoir améliorer la fiscalité pour permettre à ce que les importateurs travaillent de manière apaisée.
Oui, messieurs, bien sûr, il y a eu des mesures incitatives, mais pour quelle fin? Je pense que le gouvernement devrait d'abord s'investir dans la production locale. Nous ne produisons absolument rien. Une théorie que moi, je n'ai jamais soutenue, parce que nous avons des terres arables qui chôment. Lesquelles des terres devraient être exploitées par rapport à nos capacités de
Alors, donc, si je comprends bien pour vous, c'était un mauvais choix d'aller renforcer le libre-échange en adhérant dans la communauté des États d'Afrique de l'Est.
Parfaitement, M. J.R. Nous avons toujours décrié ça, parce qu'on ne devrait pas adhérer dans une communauté sans pour autant d'abord améliorer notre capacité production interne. C'est ça le grand problème. Qu'est-ce que le Congo doit vendre par rapport à d'autres États, bien que la libre-échange soit réelle? Mais est-ce que nous aurons à produire justement pour être compétitifs sur le marché? C'est ça le grand problème. Et également, je voudrais encore ajouter un élément de plus, c'est par rapport à ce que le ministre a élevé par rapport à la capacité de mobilisation des recettes. On a mobilisé des recettes et les réserves aujourd'hui sont à la montée, mais cela ne se justifie pas sur le quotidien des Congolais. Donc cela devrait justement être accompagné par rapport à la réalité sociale des Congolais, justement voilà, pour que cela soit fait. Mais pour 2023, monsieur Juillet, je pense que le budget a été déjà voté. Le budget a été déjà voté avec des rubriques précises, avec des dépenses précises. Mais je ne sais pas, même si on émettait des points de vue, le gouvernement ne pourra pas encore faire la magie par rapport à revoir autre chose, justement, pour booster l'économie. Je pense qu'on devrait
Il y a toujours moyen d'apporter des correctifs budgétaires. Ça c'est dans les principes bien économiques, je crois on peut faire des propositions au cours de l'année. Il y a des aléas qui peuvent survenir et ça nécessiterait un correctif budgétaire.
Oui, monsieur Gire, mais je pense que les hommes politiques aussi devraient s'investir. Nous avons 761 partis politiques créés dans un État. Mais si on admettait que, par exemple, 600 partis politiques sont des petites entreprises, vous savez combien de Congolais devraient être engagés par des hommes politiques aujourd'hui qui créent des partis, alors qu'on devrait s'investir à créer des petites entreprises justement pour régorger les taux de chômage qui est en train de flamber. C'est ça le grand problème. On n'est pas là pour être dans la politique justement pour créer des partis politiques et se faire leader sans pour autant penser à vos électeurs. Donc, penser aux électeurs, c'est créer des petites entreprises justement pour que les électeurs puissent se retrouver à travers le fonds que les députés perçoivent. Chaque député au moins aujourd'hui a un parti politique. Pour nous amener où? Donc nous devons penser justement à avoir une économie forte en produisant d'abord localement. Et aussi la promotion même de ce que nous produisons. Vous voyez qu'il y a certains de nos frères qui produisent, mais leur produit n'est pas valorisé au Congo même. Donc je pense qu'on devait faire la promotion de nos produits locaux, justement pour que l'économie puisse être boostée. Et les députés qui nous suivent, les dirigeants qui nous suivent, doivent faire attention justement pour penser à créer des petites unités de production justement pour booster l'économie du pays. Et cela pourrait contribuer au social des Congolais, M. Juillet.
Voilà, merci beaucoup Peter Mabudi d'avoir appelé. Et comme tous les autres, vous vous inquiétez sur la situation qui a été vraiment un peu reluisante en termes de social et de l'économie. Et vous avez lié cela à manque de production de manière locale. Et toutes les actions ou les décisions prises par le gouvernement, que ce soit des mesures incitatives ou encore l'adhésion à l'EAC, vous avez estimé que c'était n'est pas opportun, d'autant plus que cela n'aura jamais un impact dès lors que nous n'avons pas une production normale. Et vous estimez que cela a eu même un impact sur la valeur de notre monnaie. Voilà, merci beaucoup Peter. On va prendre Marie-Paul. Marie-Paul est à Kisangani. Bonjour Marie-Paul.
Oui, bonjour, c'est un journaliste, et bonjour à tous les auditeurs.
Vous avez la parole. Quel est votre avis? D'abord, meilleurs vœux à vous et à toute votre famille.
Oui, meilleurs vœux à vous également et à tous les auditeurs de la radio Capi. Alors, c'est le journaliste, il faut d'abord signifier que lorsque nous dressons les bilans socio-économiques et des demi-vendés, il faut les dire avec courage que le bilan est négatif. Et pourquoi ce bilan négatif? C'est parce que il y a bien évidemment beaucoup de choses qui ont été annoncées d'entrée de cette année, mais ces choses-là ne sont pas réalisées. Et nous allons voir sur le plan économique que la RDC vit dans une situation chaotique. On a entendu une montée des voix qui se sont élevées au motif qu'il y avait la crise alimentaire. Réellement, sur les plans internes, si vous sillonnez les recoins de la RDC, vous allez voir qu'il y a vraiment une crise, sa précédent, alimentaire. C'est la chose, une chose qui ne devrait pas être au rendez-vous dans notre pays. Et aussi sur le plan social, il y a quand même cette grogne, ce ras-le-bol de la population qui ne cesse peut-être d'être entendue dans les chefs de Congo, dans les chefs de la population par rapport à l'amélioration de l'air social. Aujourd'hui, comme nous les connaissons très bien, comme veulent bien nos politiciens, ils veulent beaucoup plus jouer à la rhétorique. Mais sur le plan interne, nous allons voir que si nous vérifions les paniers managers de la population, on trouve qu'il y a toujours des grands soucis. Les gens vivent en dessous des moyennes, au point que les indices de développement humain en RDC sont toujours déficitaires. Alors, toute cette situation nécessite réellement que nos gouvernants prennent quand même ça au sérieux, au point d'améliorer. Parce que le mal, c'est que nous parlons, bien évidemment, vous nous donnez l'occasion. Nous contribuons avec un peu de connaissances que nous connaissons pour que la situation s'améliore. Mais on voit que toutes les matières grises que nous donnons à ces politiciens, ils les tournent les dos. Ce qui est vraiment une situation très grave dans un État qui se veut se développer, qui se veut quand même que la situation soit améliorée. Et voilà pourquoi, pour l'année 2023, moi, je propose aux gouvernants de la RDC de pouvoir s'investir dans l'économie. Et comment ils peuvent s'investir dans l'économie? C'est-à-dire qu'on doit booster justement la production interne. J'ai entendu même les précédents qui ont dit, nous adhérons dans des organisations internationales pour rien. C'est justement pour des raisons d'adhérer. Si nous faisons ce tableau-là d'adhésion, nous sommes à plus de 250 adhésions dans des organisations. Mais tout cela nous ramène quoi? Pendant que nous-mêmes, sur les plans internes, nous ne savons pas produire. C'est purement des pertes de temps. Donc voilà, nous vivons, nous sommes devenus un état d'importation. Ça ne devait pas être comme ça pour un pays comme la RDC qui a beaucoup de terres arables, qui a beaucoup d'étendues à cultiver. C'est d'ailleurs nous qui allions. La RDC devrait profiter à pouvoir vendre ses produits à travers le monde. Mais si nous voyons dans tous les débats que nous faisons, dans tout ce que les politiciens font, ils ne font que la politique, mais ils oublient l'économie. Or, dans un État, on ne peut pas évoluer. Même pour donner la plus-value à sa monnaie, à ses ressources, il faudrait que l'économie soit au rendez-vous. Mais l'économie dans notre pays, c'est négligé. Et tout le monde aujourd'hui, vous allez voir aujourd'hui, là, en 2023, on ira aux élections. Si certainement les choses vont se tenir bon train. Mais vous allez voir le nombre de gens. Aujourd'hui, tout le monde préfère de faire la politique et de faire l'économie. Et voilà pourquoi la pyramide est renversée dans notre pays. Les gens qui sont riches en RDC, ce sont des politiciens. Or, dans bien des cas, dans les pays où les gens savent le développement, où le développement est au beau fixe, on trouve que ce ne sont pas les politiciens qui sont des milliardaires, des millionnaires, ce sont des gens qui font les affaires, les affairistes, les gens qui ont des activités
informelles,
agricoles, informelles. Des activités informelles. Mais ici, c'est le contraire. Tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas une bonne politique économique dans notre pays. Nous résistons, nous ne pouvons pas développer la RDC avec les rhétoriques, avec la politique seulement, mais ce qu'il faut pour le développement de la RDC, c'est de s'investir dans l'économie. C'est-à-dire, on doit commencer à valoriser nos produits, à valoriser nos matières premières et à donner à ces matières premières les plus-values. Et c'est alors que le pays va développer et on va voir que le chômage, on va voir que tous ces problèmes que nous connaissons de malnutrition ne seront plus au rendez-vous parce que l'État a pris les bras, les corps, toute la dimension économique.
Merci beaucoup, Marie-Paul, d'avoir appelé de Kisangani. Alors, on revient à vous, Sylvain. Sylvain, vous avez écouté vos prédécesseurs, vous avez écouté les compatriotes. Quelle est votre réaction, et surtout lorsque, tout à l'heure, un parmi eux disait que le discours des chefs de l'État a pris en compte, d'ailleurs, plusieurs aspects économiques pour projeter l'année 2023. Votre réaction?
Allô?
Oui, allez-y.
Là, vous me suivez?
Oui, on vous suit très bien. Allez-y.
Alors, j'ai décidé que je salue Peter, mais aussi je salue mon ami Marie-Paul Dexarani. Peter a dit un élément très important. Et je crois qu'effectivement, il faut qu'on arrête de créer les partis politiques, les partis politiques au profit des entreprises. Donc, et ça vous donne une idée. Lorsque vous regardez la croissance économique, nous sommes à 6,2 relativement à 6,1 de 2021. Donc, il n'a pas de 0,1. Donc, ça veut dire qu'on a presque rien fait économiquement en 2022. Et l'élément important que j'ai dit, il faut que nous puissions noter cela, c'est qu'on n'a pas créé des entreprises. Plus de 700 partis politiques, mais combien d'entreprises dans notre pays? Et quand vous regardez les classements de la Banque mondiale, en ce qui concerne, par exemple, l'IDH et tout, nous sommes les peuples les plus pauvres. Il faut noter trois choses par rapport à ça. La faim persiste encore dans notre pays. Ce sont des choses qui sont déjà résolues par d'autres économies. Il y a la fragilité sanitaire. Nous en avons parlé hier ou avant-hier. Et l'éducation qui pose problème. Il y a aussi les problèmes de route. Les problèmes d'habitat. Nous venons de parler de Kinshasa. Comment est-ce que les gens sont morts à cascade puisque nous ne savons pas organiser la vie sociale et économique de nos concitoyens. Donc ce sont des éléments qui doivent vraiment nous interpeller. Excusez-moi, en tout cas je ne voudrais pas revenir sur un discours politique qui est vidé de tout son sens lorsque nous regardons la réalité des Congolais. Je vais me poser une question avec nos auditeurs et nos compatriotes qui nous suivent à travers cette émission. Nous sommes presque à 12 heures. Qui a pris le thé le matin? Et s'il a pris le thé, c'est quelle qualité de thé? Accompagné de quoi? À 12 heures maintenant, qui vont manger? Et ils vont manger quoi? La nuit, qu'est-ce qu'ils vont manger? Donc, ce sont là des questions qui doivent interroger l'économie d'une nation. Il faut qu'on arrête des discours de nature à passer les gens dans des rêves chimériques et que pratiquement, si les plans réels, la population traverse un calvaire. Alors, je vais poser une question devant mes étudiants des fois et je les pose aux Congolais. Pourquoi on sent que la RDC, c'est un pays riche, mais dont la pauvreté gangrène toutes les couches socio-économiques de la population? Ce sont que des politiciens qui sont là en train de dilapider l'argent de l'État, excusez-moi, puisque nous avons déjà dit dès le début de cette émission que la part des institutions politiques...
Oui, alors Sylvain, je reviens à vous. L'État peut-être d'écouter un dernier auditeur qui a souhaité quand même placer un mot hein, par rapport à cette évaluation de l'année 2022 sur le plan économique et sur le plan social. Docteur Bolingo qui nous appelle de Goma. Docteur Bolingo, bonjour.
Bonjour, très cher Radio Kati, je salue l'invité, je salue l'émission d'aujourd'hui. C'est vraiment capital. Mais il faut signaler que, franchement, on ne voit rien de spécial de ce gouvernement. Il faut le dire très, très bien. Parce que cette année a été caractérisée par beaucoup de promesses. On se demande ce qu'il y a façon de changer au moins le régime. Parce que ils promettent ça, rien réalisé. Vous allez constater avec nous qui sommes au Nord-Kivu, cette année 2022 a été caractérisée par beaucoup de catastrophes naturelles, de guerres. Mais lorsque vous regardez sur terre, aucune action sociale qui a été mise sur pied. Maintenant, je veux parler d'abord dans mon secteur, le secteur sanitaire. Très cher Gilles, en RDC, nous avons le meilleur médecin du monde. Mais ce qui nous manque, nous n'avons pas de matériel nécessaire. Vous savez, la ville comme celle de Goma, où nous avons beaucoup de catastrophes naturelles,
dans un hôpital provincial, aucun appareil. Vous regardez, un scanner, s'il vous plaît, et surtout que c'est un appareil qui est beaucoup nécessité. Chaque jour, nous ne faisons que transférer des malades dans d'autres pays étrangers qui manquent à gagner. Et une autre chose, le chômage des jeunes, c'est purement catastrophique. Chaque jour, nous ne faisons que voir des milliers de partis politiques qui sont mis sur pied, mais on n'a jamais créé une entreprise, une usine qui peut engager au moins plus de 500 jeunes.
Mais est-ce que c'est l'État qui va donner de l'argent à des individus pour qu'ils créent les entreprises? Mais dès lors qu'ils possèdent déjà à l'amélioration fiscale, est-ce que ça ne suffit pas comme élément pour permettre à ce qu'il y ait des gens qui s'intéressent à faire des affaires? Et surtout, c'est de l'État avec la mise au pied de loi, l'entrepreneuriat, la loi sur la sous-traitance. Ben voilà, donc, réglementer tout cela.
Non, c'est bon de régler les finances. Mais l'entrepreneuriat, on va débiter avec quoi? On n'a rien avec lequel on peut débiter en termes d'un budget de démarrage. Comment faire maintenant l'entrepreneuriat? Moi, je pense, il serait mieux qu'on cherche les moyens par lesquels on peut changer ce régime, parce que 2023, nous attendons tous pour les bonnes élections. Lesquelles élections peuvent nous aider? Regardez les routes des sortes agricoles. Là, je vous assure, si on parvient à asphalter la route Rutshuru-Goma, la route Matissi-Goma,
c'est ça votre
toute
souhait.
La ville de Kinshasa, voilà, les routes des sortes agricoles. Regardez Walikale, la ville de Kinshasa peut manquer même où mettre la nourriture. Aujourd'hui, pendant cette période pluvieuse, toutes les récoltes sont en train de pourrir dans des champs parce qu'il n'y a pas de route pour évacuer. On pourrait évacuer. Moi, je pense, avec le projet de 145 territoires, c'est le dernier espoir du chef de l'État, parce que s'il ne parvient pas à mettre de sérieuxité là-dessus, vraiment la population, il n'aura pas même un compte à rendre devant la population. C'est tout ça que j'avais comme contribution. Mais franchement, nous ne devons plus encourager ces partis politiques, parce que vous allez constater avec nous, la politique est devenue un lien de vol où tout le monde est en train de se diriger, parce que c'est resté le seul moyen où on peut se retrouver. Allez ici à côté, vous allez voir avec nous que quelqu'un qui travaille à la DGDA...
Mais c'est quand même pour vous, c'est quand même aussi une bonne nouvelle, l'accroissement budgétaire. On est parti de 10 milliards en 2023, ça sera autour de 14 milliards.
Non, je n'en dis qu'on vient pas, c'est très bon. Mais le budget, là, ce n'est qu'un chiffre. Mais on ne voit pas l'impact social. Il faut qu'on ait vraiment, qu'on puisse voir, est-ce que réellement il y a eu une amélioration. Oui, nous n'en dis qu'on vient pas, il y a quand même une augmentation. C'est quelque chose à féliciter. Mais nous devons voir sur le plan social, est-ce que ça a un impact. Ce n'est pas seulement un budget qui est irréaliste. Même si nous votons un budget de 5 milliards et que le budget a un impact social positif, et là on va acclamer.
Donc il y a un de vos prédécesseurs qui a appelé depuis Goma, qui dit que 2022 a été vraiment paralysant sur le plan économique pour Goma. Alors donc, parce qu'il y a l'insécurité qui a eu un impact négatif sur le plan économique.
Oui, en tout cas, on n'est pas en train de voir ça positivement, parce que rien n'a changé. Si on vient par exemple dans la ville de Goma, moi je ne suis pas en train de voir une école ou quelque chose qu'on a construit pour justifier vraiment ce bilan, ce budget que nous sommes en train d'observer aujourd'hui. Voilà pourquoi je pense l'État doit prendre ses responsabilités et montrer à la population, surtout dans les trois secteurs, l'éducation, la santé, la sécurité, cet élément capital.
Alors, un commentaire avant de vous libérer sur plusieurs grognes qu'on a dû observer durant l'année 2022, les médecins par-ci, les enseignants par-là, et d'autres entreprises où on a vu les gens se soulever, notamment des jeunes qui travaillent auprès des Chinois ou des Indo-Pakistanais.
Bon, je n'ai pas de commentaires là-dessus par rapport à ce qui a été dit. Surtout, bon, je vais parler d'abord...
Merci beaucoup, docteur Bolingo. On va conclure cette émission avec vous, Sylvain Aguenaudo. Avec vous, qu'est-ce qu'on peut retenir? L'année 2022 n'a pas été réellement une année florissante pour la RDC en termes de l'économie. Et qu'est-ce que vous pouvez, on peut projeter pour l'année 2023?
2023, il y a deux choses. Il faut la reprogrammation économique, en créant les entreprises, l'effort de promotion de l'industrie doit intervenir. Il faut mettre en place des facteurs de l'émergence de l'économie, ça veut dire la sécurité, les routes, les énergies, sans lesquelles on ne peut pas faire avancer une économie. Et la troisième chose peut-être, il faut l'assainissement de l'environnement économique, la lutte contre la gabegie financière, la corruption et le comportement délicat de l'État. Sans cela, je pense que nous allons tourner à rond. L'économie d'une nation se compte à terme des entreprises créées, à terme de la production locale. Et ça, la RDC, c'est encore un défi.
Voilà. Merci beaucoup, Sylvain Aguenaudo. Et nous rappelons que vous êtes politiquement membre de Nouvel Élan. Et vous êtes analyste économique et nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir accepté de partager ces moments ensemble avec nous. Je crois que nous allons nous limiter là et nous promettons d'ailleurs à tous nos auditeurs qu'à partir de la semaine prochaine, à partir d'ailleurs de demain ou après-demain, nous allons vous diffuser les meilleures émissions, en tout cas de vos interventions sur Parole aux auditeurs. Donc on prend rendez-vous avec vous à la nouvelle année 2023. Nous avons été heureux de partager avec plaisir les temps avec nous et avec vous au pays et à travers les mondes. Voilà, on ne va pas se quitter sans pour autant dire également merci à l'équipe qui nous a tenu compagnie durant l'année. Voilà, avec joie, Priscille, Kabouya, vous avez été exceptionnels. Et alors, tous les autres, merci de nous avoir accompagnés durant l'année 2022. Le rendez-vous est pris pour l'année 2023, Inch'Allah.